Tendance première.
Nous sommes accompagnés aujourd'hui pour notre séquence Germain et nous 3.0 d'Elsa Antunes. Antunes, pardon. Bonjour Elsa.
Bonjour.
Bienvenue. Nathalie Lambinet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes toutes les deux institutrices, vous êtes ludopédagogues de formation. C'est quoi ludopédagogue, Nathalie ?
Eh bien, ludopédagogue parce que nous avons suivi une formation de un an, un master de un an, en sciences et techniques du jeu. Et donc, on a vraiment travaillé le jeu, mais par la pédagogie.
Ça tombe bien puisqu'on va parler de jeu avec vous, évidemment, oui. et de cette approche et de ce concept que vous avez mis en place. Ça s'appelle Je m'aide. C'est un joli jeu de mots. Je m'aide. Et vous proposez, à travers des formations, mais aussi des conseils, des présentations, l'utilisation du jeu dans la pédagogie aujourd'hui, avec une sélection, évidemment, de jeux en fonction des approches que l'on veut mettre en avant, des objectifs que l'on veut atteindre, en fonction des âges aussi, parce que vous êtes persuadé que le jeu, c'est une arme d'enseignement massive.
Tout à fait. Donc, on propose dans les écoles où on travaille toutes les deux en école commune d'Anderlecht. Je travaille également dans l'enseignement spécialisé à l'école Nopilif. Et dans toutes ces écoles-là, on amène le jeu comme un outil d'apprentissage réel et non pas le jeu spécifique pédagogique, mais vraiment le jeu d'édition autour duquel on peut se retrouver après à la maison, le soir, entre amis, en famille.
C'est ça, parce qu'il existe deux catégories de jeux, des jeux qui sont spécialement dédiés à l'apprentissage. Alors par exemple, ça peut être des jeux pour apprendre le calcul ou des choses comme ça. Et puis, il y a les jeux qu'on dit ludiques, mais à travers ces jeux ludiques, il y a énormément justement de choses à en retirer pour les apprentissages. C'est ça votre conviction ?
En fait, nous, ce qu'on voulait vraiment mettre en avant, c'était plutôt que de fabriquer des jeux comme toute une série d'instituts où on passe nos soirées à plastifier, etc. C'est plutôt d'aller vers les jeux d'édition, donc ceux qu'on trouve dans les magasins de jeux ou magasins un peu plus spécialisés. Oui. Et d'avoir un focus en tant que ludopédagogue et enseignante et de voir ce qu'on peut travailler comme compétences à travers ce jeu-là. Mmh. Donc on développe toute une série de compétences plutôt disciplinaires en français, en maths, et aussi toutes des compétences plutôt transversales qui sont le vivre ensemble, apprendre à argumenter et à justifier le pourquoi, etc. Et c'est vraiment décontextualiser des savoirs qu'on a appris en classe, on ne sait pas toujours à quoi ils servent, et de les mettre en pratique au travers du jeu.
Mmh. Et tous les jeux s'adaptent vraiment à une forme de pédagogie, quel qu'il soit aujourd'hui ?
Nous avons la conviction de cela, en tout cas. Et encore une fois, il faut choisir le jeu et choisir ce que l'on veut travailler avec nos élèves. Est-ce qu'on va plutôt travailler la cohésion de classe ? Est-ce qu'on va plutôt travailler le calcul ? Plutôt le langage ? Et donc, c'est vraiment de cibler ou tout simplement prendre du plaisir. Parce qu'on a aussi des enfants où l'estime de soi est souvent rabrouée. Mmh. Et donc, au travers du jeu, même si on se trompe, c'est pas grave, parce qu'on peut recommencer et s'améliorer. Et le but, c'est vraiment d'essayer de voir ce qui n'a pas été. Que puis-je faire pour justement m'améliorer la partie suivante ? Et là, on va parfois rechercher dans ce qu'on a appris en classe. Ah ben tiens, là j'ai besoin des techniques de calcul, là j'ai plutôt besoin de retravailler la négation pour pouvoir argumenter, etc. Donc c'est vraiment de faire le lien entre ce qu'on apprend et le jeu et de voir à quoi ça sert en fait, de mettre, comment dire, Nat ?
Des mots et avoir un regard sur ses pratiques.
Oui.
Que l'enfant puisse déjà être acteur de ce qu'il fait, de ce qu'il est, de ce qu'il sait faire, pas faire ou moins bien faire. Et qu'il puisse lui-même évaluer où il en est et réajuster ses comportements et ses apprentissages. Mmh. On apprend ça par le jeu, en tout cas, enfin nous.
Vous parliez de la confiance en soi et de la socialisation, pardon.
Oui.
Beaucoup de jeux sont quand même très compétitifs. Même si aujourd'hui on parle d'un grand boom des jeux de coopération, etc., il y a quand même un côté très compétitif. Est-ce que ce côté compétitif, il est mis de côté et souvent oublié parce que d'autres aspects, parfois insoupçonnés dans ce jeu-là, n'avaient pas suffisamment été mis en avant et que vous, justement, vous travaillez sur ces compétences-là.
Ben nous, c'est vrai que si on travaille la cohésion de groupe, on a plutôt tendance à se retourner vers des jeux plus coopératifs.
Oui.
Maintenant, les jeux compétitifs sont très intéressants aussi dans le dialogue pour voir quelle position je prends et de voir un petit peu certains enfants meneurs qui vont dans des jeux compétitifs être moins à l'aise parce que les mécaniques du jeu ne leur conviennent pas et du coup, ils se rendent compte qu'ils sont un peu perdus par rapport à la dominance qu'ils peuvent avoir au quotidien dans la classe pour X ou Y raison. Mmh. On espère aussi pouvoir mettre en évidence que les enfants qui sont plus discrets, parfois dans un jeu compétitif, malgré qu'ils soient silencieux et discrets, ils peuvent prendre une certaine place et incognito arriver à leur fin. Il faut se méfier des yeux qui dorment, voilà. Ouais. Mais donc nous, oui, bien sûr, c'est des choses qu'on essaye de travailler aussi quand on travaille ce genre de... Enfin, quand on a ce genre de visée-là, c'est de pouvoir mettre des mots sur différents types de jeux et quel rôle on a avec chacun, son caractère et sa manière d'agir.
Est-ce qu'on peut donner des exemples de jeux auxquels, par exemple, on ne penserait pas, mais qui sont très utiles, ou vous avez déjà noté, qui sont très utiles dans une classe, alors qu'ils n'avaient jamais intégré une classe ?
Il y en a tellement.
Oh bah, des exemples très communs, par exemple, de jeux que tout le monde connaît.
Par exemple, il y a un jeu qui permet justement d'aborder les émotions, qui est le jeu Feelings, par exemple.
C'est un gros travail qu'on a fait.
On a fait tout un travail pour un éditeur, donc qui nous a...
un peu chapeauté.
Voilà, et qui a cru dans ce qu'on veut transmettre, en tout cas. Et donc, à travers ce jeu-là, on a pu mener des projets de classe où les enfants ont créé des propres cartes de situation. Donc, on a travaillé le savoir écrire. Ils ont créé des petites scénettes. Donc, on a travaillé le savoir parler. On a travaillé aussi tout ce qui était des expressions autour des émotions, donc de comprendre le vocabulaire. On a fait des écoutes musicales où on a pu justement mettre en avant que une musique pouvait susciter chez moi la colère ou la tristesse et chez l'autre de la joie. Et donc de mettre des mots et de se rendre compte que finalement, quand on a des problèmes de communication, c'est parfois parce qu'on ne met pas la même émotion sur la situation.
C'est ça.
Et donc ce jeu-là a permis justement d'avoir un autre regard sur la communication entre les pairs, en fait.
Mais ils ont quasiment participé à la création du jeu, puisqu'ils créaient des choses, ou bien il y avait une
non,
part...
Non, c'était vraiment dévié. On a utilisé le jeu comme point de départ, oui. Et à partir de ce jeu-là, on a vraiment fait tout un lien autour des apprentissages, de voir justement comment on pouvait l'utiliser. Ça, c'est un jeu, par exemple, qu'on utilise.
Oui, un autre jeu que j'aime beaucoup, que Elsa dira aussi oui, c'est le jeu King Domino, par exemple. C'est un jeu où on doit construire un domaine royal qui doit être prospère. Et la construction se fait sous forme de carré d'une certaine taille par rapport aux pièces du jeu. Et on va devoir calculer aussi chaque domaine va nous rapporter autant en fonction du nombre de couronnes. Et donc, on va devoir travailler l'espace.
Oui.
Les enfants, d'ailleurs, on a eu des classes où les enfants avaient du mal à gérer justement cet espace-là. Et au cours de géométrie avec la titulaire, hop, ils ont construit le plan du jeu pour avoir un repère en dessous de leur jeu qui n'est pas fourni dans la boîte, qui n'est pas prévu à cet effet-là en tout cas. Et donc, nous, ils l'ont construit eux-mêmes, ils ont pris les mesures des tuiles, ils ont construit. Et alors, au niveau du calcul des points, on travaille beaucoup la multiplication. Et donc, il y a certains enfants qui, à ce moment-là, comprennent le sens des tables, par exemple. Et c'est impressionnant de se dire, ah oui, alors les tables, ça me sert, il faut peut-être que je les revoie. Mmh. Voilà, c'est des petits jeux comme ça qu'on aime beaucoup aussi.
Mais au fond, vous remotivez certains élèves, ou vous travaillez sur la motivation qui est peut-être déjà présente chez d'autres, à travers l'aspect ludique des apprentissages.
Oui, c'est ça.
Qui n'est pas du coup un gros mot.
Non.
On peut apprendre en s'amusant, voilà. Devient une réalité.
C'est ça, et le jeu est souvent un point de départ vers des tas d'autres projets que les titulaires peuvent mettre en place en fonction de leurs envies et de leurs ressentis et de leur motivation au travers de tout ça.
C'est ça. Est-ce que c'est à la portée de tous les enseignants aujourd'hui de pouvoir fonctionner comme ça ou de pouvoir réfléchir de cette façon-là, en passant par éventuellement des formations que vous proposez, hein, mais...
Je pense que oui.
Moi aussi, oui.
Maintenant, je pense que c'est vrai que de se lancer... dans un tel projet peut faire peur, parce qu'on a toujours peur de l'image qu'on renvoie, parce que, tiens, est-ce qu'on joue en classe, la notion de plaisir, il y a parfois comme ça des craintes, comment justifier ça vis-à-vis des parents, comment justifier ça vis-à-vis de ma hiérarchie. Mmh. Et donc, en fait, nous, on a contré le problème en disant, on a créé des fiches de jeu. Sur ces fiches-là, on a mis vraiment ce qu'un journal de classe d'un enseignant doit contenir, donc l'objectif opérationnel, les compétences que cela développe. Et donc, je pense que si on est accompagné, il n'y a aucun souci. Et nous, l'idée, c'est de peut-être donner des petites pistes pour justement permettre aux enseignants de rentrer dans le jeu un peu plus facilement.
Mmh. Par contre, les enfants, d'un autre côté, qui deviennent très vite habitués à des jeux de tablettes, des choses comme ça. Est-ce qu'ils ont encore cette notion du toucher, justement, et de s'impliquer dans un jeu qui n'est pas virtuel, pour le coup ?
Ben, ça dépend des enfants et des enfants qui ont la chance.
Vous notez des difficultés chez certains
oui.
à pouvoir.
Oui.
Ah oui.
Oui, tout à fait. Il y en a qui n'ont plus du tout cette chance-là de jouer en famille sur autre chose que la tablette en individuel, voire en collectif. Mais voilà, il y a des familles sur lesquelles, dans lesquelles ça n'a plus lieu. Donc il y a des enfants qui découvrent ça et c'est toujours très gai quant aux périodes de fête. Certains enfants vous avouent qu'ils ont commandé à Saint-Nicolas des jeux de société.
Ah, c'est chouette.
Et ou même, on a déjà eu, je pense, toutes les deux, le cas où des parents viennent vous remercier. D'avoir fait découvrir ce pôle-là à leurs enfants. Oui. J'ai une maman qui m'a dit « Ma fille a commandé des jeux de société à Saint-Nicolas, elle n'a jamais fait ça avant, elle ne s'y intéressait pas. » Et ils prennent pour finir du plaisir à apprendre à leurs parents certains jeux et à jouer en famille.
Ou même
donc
de...
oui, ça arrive, c'est très gai.
Ou de retourner tout simplement en ludothèque. « Madame Elsa, je suis allée à la ludothèque et j'ai emprunté le jeu dont on a joué en classe et j'ai rejoué en famille.
Oui. »
Donc c'est des enfants qui amènent le jeu dans la famille. Et qui expliquent en fait le jeu à leurs parents. Et ça, c'est donc du coup, c'est aussi. Il y a une cohésion familiale parfois qui se réinstaure au travers du jeu, c'est sympa.
Ces formations, vous les octroyez tout le temps ou vous avez des moments clés? Est-ce qu'en plein milieu de l'année, par exemple, des enseignants peuvent penser s'y mettre ou il vaut mieux quand même réfléchir et avoir un plan ou un agenda un peu plus coordonné pour.
Moi, je pense que l'enseignant doit s'y mettre quand il le sent, surtout, et à son rythme.
Oui.
Nous, les formations, on en propose, on travaille...
Vous avez des animations aussi hein, dans les écoles.
On propose aussi...
Ça peut être un point de contact. Hein.
Oui, tout à fait. On a déjà fait, certaines écoles nous ont déjà demandé des petites animations très courtes, mais qui lancent éventuellement l'enseignant plus loin après. On peut éventuellement aider à soutenir un projet à l'extérieur, le lancer, puis guider l'enseignant. Et alors, on propose parfois des formations via certains catalogues de formations ciblés pour l'enseignement. On en a encore 3 en prévision, là, entre janvier et juin 2020. Mmh. Et puis sinon, si les écoles sont en demande, on est tout à fait disponible. On a libéré un jour semaine pour ça, parce qu'on aime vraiment, et on tient vraiment à faire tâche d'huile et à pouvoir donner, on espère, le goût aux autres.
Vos collègues dans l'école, ils ont réagi comment? Ils ont tous pris le pli ou bien...
Pas tous.
Pas tous.
Résistants.
Il y a des résistants, je pense que chacun à son rythme doit vraiment le sentir. Et je comprends, moi, il y a des projets qui me tentent moins en tant qu'enseignante également. Et les résistants, pour finir, ils trouvent leur compte aussi un jour ou l'autre, d'une manière ou d'une autre, peut-être pas... Comme nous, un peu comme des folles parfois, mais...
Mais je pense que ce sont des petites graines que l'on sème, et parfois il y a des gens, il y a une germination qui est parfois plus lente chez certains que d'autres, mais voilà, moi je crois que quand on est convaincu de ce que l'on fait,
ouais.
Je crois qu'à un moment donné, ça fait tache d'huile, comme Dinette.
Ouais.
Alors vous parliez des enfants qui ont réagi en disant « moi je voudrais bien avoir des jeux à la maison pour le coup », mais au niveau de l'enseignement pédagogique, au niveau des acquis et autres, vous avez noté des différences en utilisant le jeu, des élèves qui étaient beaucoup plus attentifs ou une meilleure, on va dire, compréhension?
Oui, il y a des enfants qui, grâce au jeu, s'ouvrent. Il y a des enseignants qui découvrent les enfants autrement aussi et qui se disent « Tiens, pourtant, généralement, elle n'ose pas lire, elle n'ose pas... Voilà, je n'entends pas souvent sa voix et dans ce jeu-là, elle s'ouvre, je la découvre autrement. Ouais. » Et étonnamment, des enfants qui parfois ont acquis quelque chose de manière normalement claire et réussie et qui, quand on décontextualise, comme disait Elsa dans les jeux, sont perdus et n'arrivent plus à utiliser leurs acquis.
Donc, c'est marrant ça, c'est l'inverse.
Et ce que nous disent certaines collègues également, c'est que ils font des liens entre, alors soit pendant nos parties de jeu, pendant nos séances de débriefing, etc., où on revient sur les parties justement afin de les améliorer, on fait le lien avec ce qu'on a appris en classe, mais on a des collègues qui maintenant nous disent, quand j'initie parfois une nouvelle matière, eh bien, ils partent de ce qu'on a vécu pendant les périodes de jeu et font le lien. Et donc, elle dit, c'est marrant parce qu'on commence à se rendre compte qu'il y a un aller-retour. Et donc, voilà, donc, c'est chouette aussi pour nous d'avoir ces retours-là.
Il y a un schéma qui s'intègre à un moment donné dans la manière de fonctionner.
Parce que ce n'est pas simplement de jouer qui est important. C'est vraiment, parce qu'on va dire, oui, on joue et tout va s'améliorer. Non, c'est vraiment de faire des retours sur les parties. Donc, les séances de débriefing où les enfants doivent essayer de comprendre pourquoi je n'ai pas réussi, que puis-je faire pour m'améliorer, etc. C'est vraiment ça qui est intéressant. C'est à un moment donné de faire un retour sur la partie de jeu.
Le jeu, donc, si vous êtes intéressé, je ne saurais que trop vous inviter à aller découvrir le site jemaid.org. Jemaid, finalement, c'est pas dans le sens soigner quelque chose ou soigner. C'est vraiment je m'aide à m'épanouir dans l'enseignement et dans la pédagogie à travers le jeu, et où le jeu devient véritablement un outil. Alors, pas uniquement un outil pour des petites choses, on comprend que c'est un outil qui vient construire véritablement la pédagogie en classe chez l'enfant. C'est une excellente idée, on voulait le saluer. Donc, jemaid.org pour en savoir plus. Bravo, mesdames.
Merci.
Merci. Et continuez bien à jouer, hein, surtout.
Merci beaucoup.
Merci à vous.